Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec les grandes voix dans ce studio ce soir, Gérard Carrérou. Bonsoir Gérard. Bienvenue à Mickaël Darmon, bonsoir.
Bonsoir.
Et Julie Gradiani du mensuel L'Incorrect est avec nous. Bonsoir Julie.
Bonsoir
bienvenue.
Nathalie.
Bienvenue à tous les trois dans ce studio pour regarder l'actualité en mouvement. C'est effectivement à Mayotte que ça se joue à l'heure où nous parlons. Le président Emmanuel Macron qui est arrivé sur place ce matin, première étape de sa tournée dans l'océan Indien, qui l'emmènera ensuite à la Réunion. À l'heure où nous parlons, le président Macron est en pleine conférence de presse, s'exprime en tout cas. Va-t-il répondre également aux questions? Il a été accueilli fraîchement, Emmanuel Macron, on en parlait déjà hier soir. Aujourd'hui, c'est fermeté affichée, Gérard Carrérou, lutte contre l'immigration clandestine. Le Rassemblement national est arrivé en tête aux dernières européennes. Ça y est, le match est affiché là-bas aussi. Et on se souvient que Marine Le Pen, elle y était au printemps dernier.
Oui, absolument. Alors, il y avait deux choses. Il y avait un peu le côté Père Noël, parce qu'il a promis quand même un certain nombre d'infrastructures, à commencer par une piste assez longue pour que les avions puissent atterrir, les gros porteurs, etc. Bon. Mais l'aspect politique le plus intéressant, vous l'avez souligné à juste titre, c'est d'installer une nouvelle fois le match retour de la présidentielle d'il y a deux ans, c'est-à-dire Macron contre Marine Le Pen et le Rassemblement National. Alors, sur quel terrain ce match? Eh bien, il a choisi, et là c'est lui qui l'a choisi, il y a plusieurs semaines déjà, en installant un débat à l'Assemblée Nationale sans vote, et puis des déclarations du Premier ministre, etc., le débat sur l'immigration. On sait que l'immigration, c'est le terrain privilégié pour les Le Pen, père et fille. Et là, cette fois-ci, le président de la République sait que les Français sont très, très, très concernés par tout ce qui tourne autour de l'immigration. Et ça tourne autour de beaucoup de sujets. Je n'y reviens pas. Donc voilà, il part pour le match.
Il part pour le match. Il n'y a pas de débat. Julie Gradiani, de toute façon, Marine Le Pen, on connaît aussi son sujet Mayotte. Elle y est allée au printemps dernier. Elle a fait un bon score, hein, d'ailleurs, aux européennes. Elle est arrivée en tête sur place aux dernières européennes. Il faut aussi dire les choses, du coup, et dire les choses à Marine Le Pen.
Oui, parce qu'il convient de préciser que Mayotte est un micro-sujet dans le sujet par rapport à l'immigration, puisque Mayotte en a assez d'être elle-même, de devoir recevoir un flux de migrants venant des îles avoisinantes qui souhaitent bénéficier, voilà, des Comores notamment, qui souhaitent bénéficier des avantages offerts par Mayotte. Donc à Mayotte, il est vraiment sur une population qui en effet est très, peut-être même encore plus qu'en France, soucieuse du sujet de l'immigration. Mais réinstaller le match de retour, oui, mais sur quelle base? Parce que c'est ça qui est un petit peu troublant. L'immigration, c'est un sujet alors ou pas? Moi, j'ai compris que pendant 30 ans, c'était jouer avec les peurs, faire de l'extrémisme, inquiéter tout le monde à mauvais escient. Alors, s'il le met là, en première ligne, comme le titre, le bandeau, c'est donc un vrai sujet, c'est donc qu'il fallait le prendre au sérieux.
Mais il le prend
donc,
au sérieux, au fond, là, il annonce des choses. Il annonce absolument. Par exemple, il promet sur place 25 000 expulsions contre 9 800 l'an dernier.
Voilà,
il fait aussi tourner la planche à billets.
Lutter contre les clandestins, comme le dit l'autre bandeau, ça devait être la base. Ça devrait même pas être un engagement. Ça devrait être basique pour tout dirigeant responsable qui a les destinées de son pays en main. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je voudrais comprendre au fond, qu'est-ce qu'il gêne à ce moment-là dans le Rassemblement national? C'est quoi la partie haineuse? S'il s'approprie l'ensemble de la thématique, du langage, du vocabulaire, c'est quoi qu'il lui reproche en fait?
Alors, Mickaël Darmon, c'est-à-dire qu'il fait du copier-coller sans agir, c'est ce que nous dit Julie Gradiani en creux.
Il met en scénographie le discours de la rentrée. C'est l'endroit le plus simple pour aller parler d'immigration, d'expulsion, de lutter contre l'immigration clandestine, d'être ferme, d'être assez dur sur le sujet, parce qu'au fond, ça fait un consensus. Ça ne dit pas qu'on va faire pareil sur l'ensemble du pays, parce que là, évidemment, il est certain que l'ensemble de sa majorité, qui déjà est en émoi sur le sujet, ne va pas venir protester. Donc, de ce point de vue-là, c'est à bon compte, avec effectivement les promesses du plan de rénovation, 1,6 milliard déjà qui sont installés et qu'il annonce de manière maintenant plus concrète. L'enjeu aussi pour lui, c'est effectivement de montrer qu'il se saisit de tous ces sujets, qu'il doit fracturer la droite. Il doit continuer. Au moment où le LR retrouve maintenant, au fond, pour l'instant, déjà une organisation, l'équipe dirigeante sera connue demain,
il y a un chef,
il va y avoir maintenant,
il y a au moins la structure.
La machine va au moins repartir ou tenter de repartir. À chaque fois, mais... PS et LR tentent de rentrer dans le match et lui, il ferme le match à chaque fois.
Mais il chevauche un baril de dynamite en faisant ça.
Oui.
Parce qu'on va lui dire ce que vous avez dit à Macron, monsieur le président, c'est très bien, mais pourquoi vous ne le dites pas Place de la République à Paris ou je ne sais où.
Comment joindre le geste à la parole? Comment joindre le geste à la parole? Effectivement, on se pose la question et on tente d'y répondre dans un instant.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 19h. Nathalie, vous êtes entourée des grandes voix. Ce soir, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Julie Graziani du mensuel L'Incorrect. Et toutes vos réactions en direct au 3921 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et on se retrouve parce qu'on regarde de près ce qui se joue à Mayotte depuis ce matin où Emmanuel Macron est arrivé, accueilli fraîchement. Alors il a sorti depuis la planche à billets, protégé les frontières, intercepté les Kwassa-Kwassa. On n'a pas accompagné Mayotte au bon niveau depuis 40 ans, dit le président Macron. Il se place clairement dans le duel avec Marine Le Pen, même si j'allais dire que depuis la rentrée, on avait assez peu de doutes sur le sujet. Gérard Carrérou, on se posait la question avec Julie Gradiani, Mickaël Darmon, là juste avant la pause, tous les trois. La question c'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que toucher au droit du sol, pas question, dit-il. Quelle est la marge de manœuvre alors après?
C'est empêcher effectivement les illégaux de parvenir à Mayotte.
Mais comment?
On est à Mayotte. Alors,
voilà.
C'est là que je me demande. C'est d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Julie, c'est un petit microcosme, mais c'est un peu le problème général de comment on peut empêcher, par exemple, les gens qui prennent des bateaux un peu partout dans le monde de se rapprocher de la France. Bon, ben là, c'est Mayotte. Il y a les Comores tout autour, et là, il y a des dizaines de milliers de gens qui veulent. Il y a, les Comorais déjà veulent venir, et puis il y a tous ceux qui vont d'abord aux Comores pour venir ensuite à Mayotte. Alors, moi, je voudrais bien voir le mur de bateaux. On peut y mettre toute la marine nationale française, hein, en permanence, avoir des bateaux qui empêchent les petits canaux, parce qu'ils viennent sur des
espèces
de...
Il a pris le bateau, hein, ce matin, Emmanuel Macron, justement, pour...
Oui, mais vous imaginez, il faudrait bloquer les côtes, c'est une île, et il y a des îles partout autour. Il faudrait pouvoir avoir un mur de bateaux. Bien évidemment, on ne peut pas le faire. Or, il y a déjà, aujourd'hui, il y a la moitié des habitants qui sont des étrangers à Mayotte, et la moitié de ces étrangers sont des illégaux.
C'est
donc
ça,
déjà
256
le problème,
000 habitants, 66 000 clandestins.
Voilà, okay. Le problème déjà, je ne vois pas.
Je pense quand même,
c'est clair, c'est qu'on est
en mise en scène. Il envoie un message sur la scène intérieure française, parce qu'évidemment, depuis ce matin et jusqu'à son retour, toutes les images vont tourner en permanence. Et on a le message, il s'occupe de l'immigration. Ce n'est pas du tout le sujet. Le vrai problème, pardon, de Mayotte, c'est 84% de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est 35% de chômage. C'est comment on fait de ce département français, on arrête d'en faire un représentant du quart monde. Ça, c'est quand même le sujet. Et après, le sujet immigration, il est un sujet, je pense, vitrine. Voilà.
Sauf que, donc, concrètement, c'est Marine Le Pen qui a la réponse aujourd'hui. La seule réponse, c'est le droit du sol, dont elle veut se départir. Enfin, en tout cas, elle dit qu'il est clairement possible d'y aller. C'est la seule solution dans la réalité.
Mais en tout cas, la question du droit du sol pose un problème concret que j'opposerais aux espèces de tête-à-queue conceptuelle d'Emmanuel Macron, qui est capable de nous dire quand même tout est son contraire, il est temps que les gens s'en rendent compte, parce que en même temps, là, ça devient juste du tout et n'importe quoi, puisqu'il va nous dire à la fois qu'il faut prendre à bras et corps le problème de l'immigration à Mayotte en particulier, et puis de retour en France dans 10 jours, il nous dira qu'il faut arrêter de parler d'immigration, parce que ça suscite de la haine et de l'extrémisme. De la même manière qu'il y a 10 jours,
rappelez-vous... Il fait ça déjà depuis plusieurs semaines,
Mais ça s'accélère, le tempo s'accélère. Donc là, les gens vont s'en rendre compte. Donc de la même manière qu'il y a 10 jours, il nous disait qu'il fallait être attentif au comportement suspect de nos collègues musulmans pour nous dire après qu'il ne fallait
délation.
Surtout pas faire d'amalgame pour autant aller comprendre. Sur le droit du sol, c'est un problème très concret en effet, parce que le droit du sol a été conçu à une époque où c'était compliqué de voyager et donc de naître en France. Mais là, vous êtes devant un choix qui consiste ou à remettre en question le droit du sol, effectivement, ou à accepter les effets pervers du droit du sol, qui sont que des flopés de malheureux prennent la mer sur des radeaux de fortune pour espérer que leurs enfants et leurs femmes enceintes vont accoucher sur le sol français. Donc, d'une certaine manière, le droit du sol les met en danger et aboutit en plus à des tentations du genre on va les bloquer avec la marine, ce qui est évidemment encore plus inhumain. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux remettre en question le droit du sol que mettre en danger tous ces pauvres gens sur des esquifs de fortune?
Voilà, donc si j'entends bien, c'est qu'aujourd'hui, selon vous, ici dans ce studio, remettre en question le droit du sol, au même titre que le dit Marine Le Pen, c'est la solution et la seule, hein, parce que
je dis pas que c'est la solution, je dis que le problème peut être posé sans qu'il soit qualifié de mesure extrémiste.
Allez. Bon, on va avancer sur un autre sujet si vous le voulez bien, parce que dans une seconde, on va parler de ce livre. Ça ne devait pas être un livre au départ et finalement, c'en est un. C'est François Hollande qui revient en librairie avec Répondre à la crise démocratique. Il veut être utile. François Hollande, comment le peut-il ?
Et vous pouvez réagir et interpeller les grandes voix à ce sujet. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix ce soir. Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Julie Graziani du mensuel L'Incorrect. Et toutes vos réactions en direct au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
François Hollande revient, pardonnez-moi, dans les librairies. Je ne voudrais pas que certains s'inquiètent, ou pas d'ailleurs. Il est effectivement très prolifique. Il y avait un premier livre il y a quelques semaines, et puis un deuxième, Répondre à la crise démocratique, là, sur les institutions, nos institutions. Alors, on va dire d'un mot ce que ça recouvre. C'est notamment une proposition d'un mandat présidentiel, non pas de 5 ans comme actuellement, ou de 7 ans comme auparavant, mais de 6 ans, renouvelable une fois, dit François Hollande. Il préconise aussi de faire, de passer en fait le Premier ministre, exit le Premier ministre, et évidemment on va regarder avec vous ce que dit ce retour dans les librairies, moins éloigné de la vie politique française qu'il n'y paraît, Gérard Carrérou, François Hollande.
Ce qui me fait rire, enfin, franchement tout ça me fait rire, parce que c'est quand même la leçon politique du plus mauvais, enfin c'est mon avis, peut-être certains d'entre nous le partagent, le plus mauvais président de la 5e République. Et alors on a là l'excuse type du mauvais élève, vous savez le gars qui vous dit, bah oui mon devoir de philo, j'ai eu 2 sur 20, mais si j'avais eu une demi-heure de plus, j'aurais eu 18, etc. Là, c'est... Vous comprenez ? Moi, j'ai pas... Si j'avais eu un an de plus, j'avais un mandat de 5 ans, si j'avais eu 6 ans, alors là, j'aurais... tout ce que j'avais commencé à réaliser, ce serait... Il y aurait le chômage était fini, et tout baigne, quoi. Bon, tout ça, c'est tellement... Bon, alors, sur le fond, par contre, je pense qu'effectivement, la durée du mandat, ça a été c'est une ça. Erreur, le mandat à 5 ans, et je pense que si on était un peu sérieux un jour, il vaudrait mieux revenir à un mandat unique à 7 ans, en gardant l'Assemblée, ça permettrait des cohabitations, et les cohabitations, ça serait des respirations démocratiques, comme on l'avait vu déjà en 86 et en 97.
Bon, alors vous restez sur 7 ans. Julie Graziani, Mickaël Darmon, qu'est-ce qu'on dit de François Hollande ? Il est là, il revient par petites touches dans les librairies, ça cartonne à chaque fois, parce qu'on le publie de nouveau, alors que ça devait être simplement une publication.
Oui, ça plaît aux gens, je reconnais, c'est un peu étonnant. Il y a peut-être de l'humour, ce dont parlait Gérard. Non, très sérieusement, dans cette interview, j'ai vu des choses qui sont... Ce n'est pas des propositions. Alors, on a eu des scoops, le président américain fait ce qu'il veut. Ouais. Scoop, on en doutait. On a des idées toutes faites. L'extrémisme qui prospère sur le terreau de la peur. Alors là, le cliché politique. On a des constats non suivis de conclusions. Donc il faut, Trump fait ce qu'il veut, et qu'est-ce qu'on fait ? On n'en sait rien. On a eu des dictons de bon sens, l'incertitude précède l'inquiétude, ou le dialogue vaut mieux que le conflit judiciaire. Ben, on est bien avancé avec tout ça.
Mais au-delà de ça, est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose des intentions de François Hollande, de Julie Graziani ? Parce qu'on n'a pas, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on voit juste qu'il se rappelle comme ça au bon souvenir des Français, régulièrement.
On a l'impression qu'il caresse la tentation d'y retourner, mais toujours avec ce paradigme qui ne marchera pas, celui de l'obsession du rassemblement. Surtout faire des propositions floues, surtout ne rien clarifier, surtout ne rien dire qui puisse fâcher, surtout ne pas être clivant. Ça ne fonctionnera pas.
Mickaël Darmon.
François Hollande poursuit ce que Nicolas Sarkozy a inventé, c'est-à-dire le mandat post-présidentiel. Ce sont des présidents, des anciens présidents en exercice, parce que la santé, l'ambition et bien entendu le seul sang qui coule dans leurs veines, c'est-à-dire la politique, continuent de tourner. Donc bien évidemment, il y a un projet. Bien évidemment, ça n'est pas un hasard. Bernard Cazeneuve publie un livre.
C'est ça.
François Hollande publie un livre. On est dans la bataille pour être élu en librairie. Et on voit bien que Ségolène Royal commence à laisser entendre que, insupportable pour François Hollande, qu'il y a un projet, se venger d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'il dit en privé. C'est tout ce qui guide en fait ses actes, parce qu'il a compris après quelques temps qu'il s'était fait effectivement un peu berner. Donc, là, maintenant, il va absolument revenir. Est-ce qu'il pourra le faire ? Ça, les circonstances politiques le diront. Mais vous savez, en ce moment, Bernard Cazeneuve et François Hollande se répondent avec un seul mot. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On dit à l'un, je veux être utile. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On dit à l'autre, je veux être utile. Voilà, le mot utile, maintenant, c'est pour cacher l'ambition d'un retour possible, potentiel, putatif. On verra bien.
On verra bien. On a Franck qui nous appelle depuis le Var. Bonsoir à vous, Franck.
Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, les grandes voix.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ben, moi, je me pose une question, je vous la pose. Pourquoi il n'a pas eu les bonnes idées plus tôt, si elles sont si bonnes que ça? Je veux dire, à un moment, il faut toujours attendre qu'il soit plus au pouvoir pour avoir des idées. C'est déplorable. Moi, je pense, je ne sais pas s'il a une stratégie de retour ou pas. Je pense plutôt qu'il n'a qu'une ambition, c'est d'exister et d'exister médiatiquement. Je suis navré de vous dire que ça marche, puisque moi, je vous téléphone et que vous faites une émission sur le sujet. Je pense que ne pensez-vous pas que c'est aussi que de l'orgueil, finalement, ou que du besoin d'exister autrement que par ce pourquoi il a été élu? Parce que peut-être que le 49-3, il faut le supprimer. Peut-être qu'il faut supprimer aussi le Premier ministre. Pourquoi pas? Posons-nous la question du bien fondé de ces suggestions. Mais moi, ce qui me dérange quand même, c'est que ça arrive après, après la bataille. Quoi. Après. Alors peut-être que c'est la marque Hollande, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a toujours un train de retard? J'ai un peu l'impression quand même.
Merci beaucoup, Franck.
Je partage aussi votre avis sur le fait que c'est le plus mauvais président qu'on ait jamais
eu. Voilà, donc vous avez Gérard d'un côté, Michael Darmon de l'autre sur la personnalité, sur le côté égocentrique des politiques.
Ce sont des fausses politiques, donc
ils sont habités, effectivement nourris à ça. Merci beaucoup, Franck. Non, je voulais juste entendre aussi Anissa nous livrer un tweet sur le sujet.
C'est Pipou81 qui lui pense l'inverse. Il dit: François Hollande n'a rien compris de son échec. La France mérite un régime primo-ministériel sans président de la République.
Ah bah voilà, ça c'est fait. Non mais quand même, je voulais juste dire un truc. Effectivement, il n'y a pas d'exercice d'inventaire de son action, mais il y a peut-être un constat à faire quand même. C'est qu'on est dans un régime en fin de cycle, oui ou non. Et que si ces propositions, elles sont incomplètes, elles sont imprécises, comme dit Julie Gradiani, etc. Est-ce que ça, le fait que ce régime en fin de cycle est quand même à nos portes, ce constat, il est quand même très largement partagé. Est-ce que là, il n'a quand même pas l'ébauche d'une réponse? Et ce sera la conclusion de Jean-Pierre.
On peut peut-être l'améliorer, ou on peut considérer qu'il faut en changer. Mais il a quand même le mérite d'avoir duré assez longtemps, depuis 1960. On est maintenant en 2020, bientôt, ça fait quand même 60 ans. Moi, je préférerais qu'on essaye de l'améliorer. Par exemple, la proportionnelle pour l'Assemblée nationale, un certain nombre d'aménagements.
Ouais. Et Michael, en une seconde,
ça s'entend, c'est sa maxime, c'est: je ne suis pas perdant, je suis sortant.
Ouais, voilà. Merci à tous les trois, Julie Gradiani pour l'incorrect, le mensuel. Michael Darmon, Gérard Carrérou, merci à vous.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, c'est le journal de 19h, signé Sébastien Krebs. À la une de l'actualité, ce soir, on va aller du côté de Perpignan avec des intempéries ce soir qu'on surveille de près.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h.